Alors peut-être comme moi, vous avez une journée bien remplie aujourd'hui avec des rencontres familiales. Alors peut-être vous avez un dîner en famille ou un souper en famille. Nous, on a les deux aujourd'hui, une partie des enfants là, le midi, une partie le soir. Évidemment, c'est nous qui faisons la nourriture, qui cuisons, qui servons maman aujourd'hui, qui nous sert si souvent. Et je remercie le Seigneur. Hier, j'avais mes gendres à la maison. Ils m'ont aidé. Maman voulait pour la fête des mères un travail dehors autour de la piscine à arracher toute la mauvaise herbe, les plantes et de mettre 4 tonnes de roches de rivière autour. Et Dieu merci, j'avais des gendres musclés. Je pense qu'ils sont plus fatigués que moi ce matin. En tout cas, ça me réconforte de penser qu'ils sont plus fatigués que moi, en tout cas. Et qui ont travaillé fort, ils ont un petit peu plus de cornes dans les mains, là, puis un petit peu plus de genoux usés et de dos maganés, mais ils m'ont aidé à faire ça hier. On a pu faire une belle tâche pour honorer maman hier. Et ce matin, en m'en venant, ben, j'avais un petit peu de route à faire. J'étais allé chercher Mathias à Shawinigan et sur la route, ben, j'ai appelé ma maman. Je la salue aussi parce qu'elle est justement en ligne avec nous ce matin de la maison. J'ai appelé mes deux petites sœurs pour le souhaiter. J'espère que vous prenez le temps de faire ça, pas juste parce que c'est la fête des mères, c'est parce que aussi c'est une occasion de s'arrêter et de dire à Dieu merci pour les mamans. Merci pour la maman dans mon foyer qui est mon épouse. Merci pour ma maman. Merci pour les mamans autour de moi qui sont mes sœurs, des amis proches et qui restent fidèles. Parce qu'une maman qui est fidèle à être une bonne maman, elle honore pas sa personne avant tout. Elle honore celui qui l'a créé, Dieu. Et si une maman a un impact parmi nous, c'est parce que Dieu a créé la maman. Et Dieu lui a donné ses qualités maternelles, ses soucis des relations, cette persévérance, non seulement dans son corps pour persévérer à porter des enfants, mais après ça, à persévérer, à aimer et prendre soin, même lorsque servir et prendre soin dans son foyer peut être, dans certains moments, des périodes extrêmement ingrates. N'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas toujours un merci comme on aimerait. On se connaît pas toujours la réceptivité relationnelle qu'on voudrait avec un enfant ou un autre. Et pourtant, la maman, elle persévère à la relation, n'est-ce pas? Et qu'on l'aime et qu'on l'apprécie pour cette persévérance dans les moments désertiques relationnels, mais qui a cette espérance que le lien va revenir, cette espérance que réconciliation reviendra. Et c'est pour ça ce matin que je vais aborder le chapitre 7 de 2 Corinthiens dans cette perspective divine et féminine de cette soif, de ce désir de réconciliation. Ce désir de bonne relation, ce désir lorsqu'il y a eu des blessures, il y a eu un gouffre qui s'est créé dans une relation, de revenir ensemble. Et par quel chemin cela se fait? Dans le chapitre 7 de 2 Corinthiens, on voit Paul qui nous parle de ce cheminement-là, de l'Église de Corinthe et lui de revenir ensemble après qu'il y ait eu un froid, une lettre qui reprenait assez durement le comportement à Corinthe, des choses qui vont être réglées, des problèmes à adresser, des déviances, des comportements de désobéissants qui déshonoraient Dieu. Et là, il y avait une tension et il y en a qui s'attaquaient aussi à lui et il se réconcilie et il communique sa réconciliation ici et la réceptivité de Corinthe. Et il y a beaucoup de leçons intéressantes ici sur cette idée de repentance, de réconciliation, de revenir ensemble après un moment où il y a eu un bris relationnel. Et le lien est facile avec les mamans, puisque dans un foyer, c'est souvent les mamans qui ont, plus que les papas, un plus grand souci des bonnes relations dans le foyer. Et tout le monde en bénéficie que maman persévère dans ce désir-là. Et je sais que beaucoup d'entre vous, chères mamans dans cette salle qui écoutent, autant en présentiel qu'à la maison ou en différé, il y a des soucis relationnels que vous avez. Des relations qui vous pèsent. Encore dernièrement, une maman me partageait à prier pour une relation entre deux de ses filles qui étaient brisées, qui se parlent plus, ça complique les relations familiales, ça alourdit le cœur de maman. Et chaque fois qu'elle est en train de cogner aux portes du ciel à parler à son Dieu, elle parle de quoi à son Dieu? Elle parle de ses relations brisées, de ceux qu'elle aime et qui pèsent sur son cœur, n'est-ce pas? Et je sais que certainement ce matin, beaucoup d'entre vous, chères mamans dans cette salle, il y a des poids relationnels que vous portez, des inquiétudes de relations brisées, à savoir, Seigneur, j'ai fait tous les efforts, comment est-ce possible ce retour de réconciliation, de retrouver cette relation satisfaisante? Et Paul va nous parler de ça ce matin, et j'espère vous encourager, nous encourager, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec les mamans, et vous, les mamans, vous encourager dans ce rôle de réconciliatrice, dans ce rôle de privilégier souvent la relation plus que mes standards, les choses et les affaires à faire, mais la relation. Et donc, j'aimerais vous inviter dans ce texte de 2 Corinthiens et vous lire une partie du chapitre ensemble, alors que Paul ici parle de ces mots très forts qui font partie de la réconciliation. Et je vous invite à retenir ces mots clés. Okay? Écoutez bien, il y a quelques mots clés qui vont revenir. Portez-y attention à notre lecture. Vous allez voir le mot « tristesse », 8 fois. Vous allez voir le mot « crainte », 4 fois. « Joie » ou « se réjouir », 6 fois. Et vous allez voir à travers tout ça l'expression, et vous ne verrez pas le mot, mais vous allez voir l'expression d'amour profonde. Et remarquez ces mots-là qui reviennent et qui font tous partie de ces expressions de quand une relation est tendue et de revenir ensemble. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup de préoccupations qui sont là. Et que lorsque celles-ci arrivent, qu'est-ce qui en sort? C'est beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Notez-le dans le texte et vous allez apprécier davantage encore cette lecture. Allons dans la lecture des Saintes Écritures ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 7. Verset 1. Puisque nous détenons de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit. Achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. Et juste avant d'aller plus loin, juste vous commenter ici que peut-être ce verset-là semble sortir du lot du reste du chapitre, c'est parce qu'on vient de terminer le chapitre 6. Il vient juste de terminer. Nous, on a des chiffres dans nos bibles, hein? Dans 2 Corinthiens, chapitre 7. C'est bien ça? Tout le monde est là? Non? Alors, peut-être ma version est un peu différente parce que c'est Tob, mais c'est le même contenu, OK? Je peux vous l'assurer. Souvent, dans nos versions, quand on lit un texte, on a des versets. Hein? Et des fois, on commence un chapitre, là, OK, là, c'est un nouveau sujet. Je veux juste vous rappeler que tout ça était une lettre qui n'avait pas de verset dedans, puis il n'y avait pas de chiffre avant, OK? C'était une simple lettre, mais dans laquelle, dans le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, on met des versets pour se retrouver. Et ce verset-là, ici, fit très plus naturellement dans le chapitre précédent, mais il a été coupé ici par ceux qui ont travaillé à la découpure des textes. Le chapitre précédent terminait sur l'importance de se séparer du monde, de se purifier. Et ici, il complète cette discussion du chapitre 6 par ce verset qui commence notre chapitre. Et qui, c'est pour ça que certains vont prêcher des fois et arrêter au chapitre 7, verset 1, le chapitre 6, plutôt que de le faire comme je le fais ce matin. Je vous l'explique tout simplement. Mais je pense qu'il y a un lien avec la réconciliation, ce désir de purification, de séparation du mal et du péché dans notre vie ou de relations qui sont mauvaises et qui favorisent la réconciliation. OK? Alors, je vous lis et je continue au chapitre 7, verset 2, dans la version que j'utilise ce matin, qui est la Tob. Faites-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je dis cela, car je l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la mort et à la vie. Et Paul avait déjà communiqué ça dans les chapitres précédemment. Grande est ma confiance en vous. Grande est la fierté que j'ai de vous. Je suis tout rempli de consolation. Je déborde de joie dans toutes nos détresses. En fait, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas connu de détente, mais toutes sortes de détresses, combat au dehors et crainte au dedans. Il avait parlé de ce défi-là dans le chapitre 1 et 2, et c'est là que Tite était venu le rejoindre à Troas, et il avait apporté des nouvelles. Ils avaient passé des moments très difficiles. Et là, il va parler de la venue de Tite qui vient donner des nouvelles. Et voici ce qu'il dit. « Mais Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite. Non seulement par son arrivée, mais par le réconfort ou l'encouragement qu'il a reçu de vous. Il nous a fait part de votre vif désir, de vos larmes, de votre zèle pour moi, au point que j'en ai eu une joie plus vive encore. Oui, je vous ai attristé par ma lettre. Je ne le regrette pas. Et si je les regrette, je le regrette cette lettre, je le constate, vous a attristé, ne fut ce qu'un moment. Je me réjouis maintenant, non de votre tristesse, mais du repentir qu'elle a produit. Car votre tristesse a été selon Dieu. Ainsi, de notre part, vous n'avez subi aucun dommage, car la tristesse, selon Dieu, produit un repentir qui conduit au salut et ne laisse pas de place au regret. La tristesse, selon le monde, elle, produit la mort. Voyez plutôt ce qu'a produit chez vous la tristesse, selon Dieu. Oui, mais quel empressement, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle et quelle punition. De toute façon, vous vous êtes recommandé vous-même comme étant net en cette affaire. Et je m'arrête ici. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Et qu'il nous parle et nous encourage ce matin. Réconciliation et grâce, le cœur d'une mère, mais c'est le cœur d'une mère parce que c'est le cœur du Père Céleste. C'est le cœur de Dieu. Et quand les mères ont ce souci relationnel, rappelez-vous, c'est parce que Dieu a mis ce souci relationnel dans leur cœur. Et cette persévérance, autant physique qu'émotionnelle, à le chercher. Donc, je ferai souvent des correspondances à ce niveau-là, pas parce que les mères l'incarnent parfaitement, personne l'incarne parfaitement, mais c'est généralement un souci plus fort et qui se dégage chez les femmes que chez les hommes. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous, en toute simplicité, à travers le chapitre, ce que je vois comme un chemin vers la réconciliation. Et je vois 5 choses que Paul nous partage dans ce cheminement vers la réconciliation. Et la première, c'est la sainteté et la crainte de Dieu, fondement de toute relation restaurée. Paul a fait une invitation, je l'ai mentionné tantôt, dans le chapitre précédent, il faut le lire pour apprécier, une invitation à se séparer du monde, parce qu'il y avait beaucoup de mondanité à Corinthe, il y avait un contexte social, économique, qui favorisait cela, ainsi que religieux. Et Paul les invite parce qu'il y avait du compromis à différentes sphères. On l'a vu dans 1 Corinthiens, si vous avez moindrement lu l'Épître, vous savez qu'il y avait toutes sortes de sphères qui ont été exhortées par Paul. Et Paul ici leur rappelle l'importance de se séparer du monde. Et par notre ADN qui est distinct du monde, il dit quelle habitation il y a dans nos partenariats avec le monde, autant en mariage qu'en affaires et dans d'autres domaines. On est tellement distinct qu'on peut pas faire ça. Séparez-vous du monde. Et là, il y a des promesses qui sont données à ceux qui se séparent, que Dieu va bénir relationnellement, que Dieu sera au rendez-vous. Et donc, les promesses, vous les aviez au chapitre précédent, au verset 17 et 18, des encouragements à se séparer. Et là, Paul ici vient tout simplement compléter cette exhortation-là par le fait de dire, purifiez-vous à l'impératif ici. Gardez-vous pur, séparez, faites ces distinctions, elles favorisent les relations. C'est vraiment important. Et encore plus, ça complète le travail de sanctification. Remarquez bien cette expression-là que vous retrouvez dans le verset 1. Achevez cette sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est intéressant ici qu'il met la crainte de Dieu, parce que quand il met ici l'expression la crainte de Dieu, il est en train de parler d'une attitude d'un croyant, de ce qui distingue celui qui, de tous les temps, est un enfant de Dieu. C'est un craignant Dieu. C'est quelqu'un qui reconnaît Dieu comme créateur, Dieu comme père et comme juge ultime, et qu'il doit respect à Dieu. Et c'est ce qu'on utilisait pour parler tout simplement des chrétiens parfois, les craignants Dieu, ceux qui craignent l'Éternel. Pas parce qu'ils ont juste peur et qu'ils sont en train d'avoir les genoux qui claquent ensemble et que ça les garde immobiles. Non, que ce grand respect les porte à l'action pour Dieu, à être sérieux, à faire des choix dans la vie. Que ce respect de Dieu, cette crainte de l'Éternel, ben, le psalmiste, Salomon, nous en parle dans le livre, c'est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Ça nous protège de nous-mêmes et des égarements. C'est une expression qui donne l'attitude d'un chrétien et d'un croyant, un craignant Dieu. Avant de craindre les autres, avant de penser ce que les autres vont penser de moi, avant d'avoir peur des réactions des autres, je crains l'Éternel avant tout. C'est à lui que je vais rendre des comptes. Et parce que je crains l'Éternel, ça me donne une attitude différente et qui me rend moins influencé par le monde, mais plus influencé à celui à qui j'ai des comptes à rendre, celui qui me donne la vie, celui qui me donne ma raison d'être, celui qui me donne le chemin pour aller à lui alors que j'étais perdu, et celui qui me donne une assurance face à l'avenir. Je le crains, je lui plaire, et c'est ce qui me garde dans la sainteté. Et trop souvent, quand je remarque dans nos vies qu'il y a du compromis, qu'il y a un égarement, qu'il y a un péché fétiche qu'on garde et qu'on retourne à se vautrer dedans, qu'on banalise, il y a un manque de crainte de Dieu. Cette attitude qui nous garde dans la sainteté, à réaliser que quand personne me voit, Dieu me voit. Et que plaire à Dieu est plus important que tout le reste. Et que plaire à Dieu, c'est ce qui garde aussi notre conscience pure. C'est ce qui nous donne de la légèreté. C'est ce qui dissipe tous les fardeaux que je porte, toutes les culpabilités, toutes les attaques. C'est la crainte de l'Éternel. Même la persévérance dans l'épreuve, par la crainte de l'Éternel. Et c'est cette attitude qui contribue à notre sanctification. Pasteur Benoît a fait des excellents messages dans le livre de Philippiens, chapitre 2, les versets 11, 12, 13, 14, lorsqu'il parle justement de sanctification et de travailler à notre salut, pas pour le gagner, mais de travailler à ce que Dieu a sauvé et de travailler dans celui-ci avec Dieu. Et ça mentionne l'attitude dans la crainte et tremblement. Et deux fois, il va en parler dans le chapitre, crainte et tremblement. Ça décrit une attitude de soumission, de respect envers Dieu. Et si ce n'est pas, s'il y a une défaillance de cela dans notre vie, ça paraît dans notre comportement. Et ma question pour nous ce matin, c'est est-ce que je suis un craignant Dieu? Ou je professe une foi, je professe une religion chrétienne? C'est un monde de différence d'être un authentique craignant Dieu. Et c'est ce qui inspire ici la première exhortation de Paul qui va motiver à la sainteté, l'invitation ici d'être dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, qui est à la base de toute forme de bonnes relations et de réconciliation. Et c'est la première chose que je veux qu'on souligne ce matin. La réconciliation commence par un cœur qui cherche Dieu et se purifie avec son aide. Et vous savez, c'est souvent une des choses que les mamans font, n'est-ce pas? Hein? Ils encouragent leurs enfants à se rappeler que Dieu est là avec eux, mais que Dieu les regarde quand nous, on ne regarde pas. Qui encourage les enfants à leur garder leur pureté, autant morale spirituel que sexuel. N'est-ce pas un des désirs des mamans? Garde-toi pur, protège-toi. Laisse pas n'importe qui te prendre ta pureté dans ton cœur, dans ton corps. Un souci de la pureté. Sachant que la perte de la pureté, qu'est-ce que ça amène comme tâche dans notre conscience? Qu'est-ce que ça amène comme tâche de lourdeur sur la vie? Deuxième chose, un cœur ouvert et vulnérable. Et ici, Paul fait juste parce qu'il vient de revenir sur ce qu'il vient de dire dans le chapitre 6 sur la séparation, il le dit au verset 1, il revient aussi sur les versets 11, 12, 13 du chapitre précédent. Et je vous invite à le regarder pendant que je vous parle, où ce qu'il dit, ouvrez votre cœur. Il y a des gens qui vous ont parlé contre moi, il y en a qui sont frustrés parce que j'ai osé vous reprendre, comme des fois on est frustré après maman ou papa parce qu'ils nous ont repris, ils nous ont dit, c'était inacceptable ça, tu m'avais dit ça, tu l'as pas fait, je suis déçu. Puis là, il y a cette tension qui existe. Et là, Paul invite, ouvrez votre cœur. Comme nous, on a ouvert notre cœur à vous. Et donc, il revient simplement à cette exhortation-là, après avoir complété sur la sainteté. Et c'est ce qu'on retrouve dans les versets 2 à 4. Cette invitation encore du cœur de Paul, qui dit, je suis prêt à la vie, à la mort pour vous. Puis je vous l'ai prouvé dans le passé, lorsque j'étais avec vous à Corinthe, les risques que j'ai pris, les coups que j'ai mangés pour vous, et comment ça m'a coûté être avec vous, vous le savez, et je vous invite à avoir la même ouverture de cœur que j'ai eue envers vous. un retour de cette même exhortation, qui ici, on n'est pas juste à notre deuxième, mais peut-être troisième et quatrième dans le livre, d'ouverture et de vulnérabilité. Si on veut moindrement une bonne relation et une authentique réconciliation avec quelqu'un, il n'y a rien comme se mettre les tripes à la table. Puis de dire comment on se sent, gentiment, avec amour. Et parfois, il y a des choses très dures qu'on peut dire, et tout à coup, avec les yeux dans les yeux, quand on regarde la personne, on le voit, la tristesse authentique. On voit un cœur ouvert et qui me dit, tu sais, quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, je me suis senti comme ça. Ça m'a fait tellement mal parce que je t'aime. Je suis vulnérable à toi. Mon cœur est ouvert à toi. Fait que quand tu me fais quelque chose qui me fait mal, à cause je suis ouvert à toi, ça me touche encore plus. N'est-ce pas pourquoi les mères sont aussi affectées quand leurs enfants leur tournent le dos ou quand il y a un conflit? Parce que la maman se rend vulnérable, elle ouvre son cœur à aimer. Et donc, ça la rend vulnérable, n'est-ce pas? Et des fois, à cause de cette vulnérabilité, il y en a qui vont se durcir pour être capable de mieux endurer une épreuve, des relations tendues avec les gens. Mais en faisant ça, on veut se protéger d'avoir mal, mais en réalité, on bloque notre vulnérabilité qui permet de reconstruire une relation brisée, n'est-ce pas? Et c'est là la tension, parce que c'est un peu fou de se laisser aussi vulnérable et d'avoir autant mal, n'est-ce pas? Qui veut se torturer comme ça? Alors, la nature humaine fait qu'on se bloque, on se protège. Mais à chaque fois que vous faites ça, messieurs, mesdames, vous bloquez aussi le retour de la relation qui est brisée. Le seul moyen qu'il revienne, il faut rester dans cette vulnérabilité-là. Et dans cette vulnérabilité, on l'a chanté, se confier en l'Éternel plutôt que dans mon bouclier pour soigner mon cœur. Vous me suivez? C'est un monde de différence, là. C'est un monde de différence. Et ça, c'est le craignant Dieu, la craignante de l'Éternel. Je ne vais pas me protéger moi-même. Je vais demander à Dieu la sagesse d'aimer sagement dans les circonstances, de m'adapter. Et Seigneur, quand j'ai mal, je me confie en toi pour me consoler, m'encourager, garder la perspective au moment où cette relation-là va revenir, parce que pour l'instant, ça me fait mal quand j'y pense. Je pleure, je suis tanné que les autres me voient en train de brailler. C'est correct, mesdames, vos larmes vous protègent de la folie. C'est l'expression naturelle que Dieu a créée en nous. Lorsqu'on a mal, on pleure. Si vous le gardez à l'intérieur, qu'est-ce qui va arriver? Il y a une pression qui se construit, À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Explosion, dépression, toutes des ions qui ne sont pas bons pour la santé. Mais notre mécanisme humain nous amène quand même à vouloir se protéger plutôt que de se confier en l'Éternel pour me protéger et garder mon cœur et en prendre soin, de continuer à le soigner en attendant qu'il y ait des réparations. Et certains, malheureusement, beaucoup voient le retour dans la vie. Mais souvent, certains vont partir sans qu'ils aient vu tout le retour relationnel. Mais la maman, mais l'homme de Dieu aussi, se confie en l'Éternel en gardant son cœur ouvert, vulnérable, à aimer. Et Paul sait ce qu'il fait et c'est ce qu'il nous communique ici. Il garde son cœur ouvert et il revient avec cette même attitude paternelle et maternelle dans cette partie-ci du chapitre. Et donc, comme Paul, ouvrons nos cœurs à ceux que nous avons blessés et qui nous ont blessés. Et persévérons dans cet état de foi à faire confiance à Dieu et pas dans nos moyens pour gérer cette déception-là. Donc, le chemin vers la réconciliation, on commence par un choix personnel de cultiver cette attitude de crainte de Dieu, de se garder dans la pureté. Deuxièmement, de garder notre cœur soigné auprès de Dieu pour le garder ouvert et vulnérable et de continuer d'aimer. Troisièmement, Dieu réconforte les cœurs brisés. Je vous rappelle ici une vérité du chapitre 1. Vous rappelez, le Père du réconfort, le Père de tout encouragement, chapitre 1, verset 3, il avait commencé avec cette vérité-là qui vient teinter toute l'épître au complet. Et là, il revient ici avec cette vérité-là que Dieu réconforte les cœurs brisés. Et on voit ici que le réconfort portait un nom. Le réconfort ici que Dieu a donné, Dieu nous a réconforté comment? C'est quoi son nom ici? Il s'appelle Tite. c'est la personne que Dieu a utilisée pour faire du réconfort ici. Au verset 5 et 6 et 7, il nous parle de Tite qui est revenu, qui a encouragé notre cœur par un rapport encourageant. Il est allé chez vous, il nous a dit que vous êtes vraiment bien comportés, vous l'avez bien reçu, que vous avez été super réceptifs. Et même, il nous a tellement raconté tout ce qui s'est passé qu'on a été vraiment fiers de vous autres, parce qu'on vous avait beaucoup vanté. Et il utilise le mot « fierté » ici, et qui, dans un contexte négatif, c'est le mot « orgueil ». Et il est utilisé plusieurs fois à travers cette épître. C'est un des petits mots et des verbes utilisés d'une façon distinctive dans cette épître. Je suis fier de vous autres. Puis quand il est revenu, il me fait un rapport de comment vous l'avez accueilli, puis que vous avez été conforme à ce qu'on avait dit à lui de vous. Oh, ça nous a tellement fait de bien. Hein, tu sais, comme quand une maman reçoit les nouvelles d'un bon coup de ses enfants. Hein? Puis que là, il arrive d'ailleurs. Puis là, finalement, pendant qu'elle était ailleurs, ta fille, ton gars, elle a fait la vaisselle pour aider les gens, elle a été polie, puis elle a dit, « Oh, ta fille est tellement bien élevée, ton garçon, ah, il est tellement serviable. » Et là, tu dis, « Oh, wow, ça me rend très fier. » Puis là, tu tournes de bord, puis là, tu dis à ton mari, « Ouais, mais j'aimerais ça qu'elle fasse ça aussi à la maison. » Ah, ça a l'air que je suis pas tout seul à vivre ça des fois. Hein? Mais on est content de ça, n'est-ce pas? Quand on a un rapport, que notre enfant est ailleurs, s'est bien comporté, on dit, oh non, mon fils ou ma fille est fière, faites-en pas, puis là, finalement, la personne expérimente, puis là, il fait un bon rapport, puis là, il y a une saine fierté, n'est-ce pas? Une fierté que j'ai donné beaucoup à cet enfant-là, j'ai montré des choses, puis là, elle l'a mis en pratique. Peut-être dans la relation la plus proche, des fois, c'est plus difficile de la mettre en pratique, hein? Mais néanmoins, ça apporte cette fierté-là. Il parle de tout ça. Puis il dit, quand Tite est arrivé, nous autres, on était dans une grosse épreuve. On vivait des moments difficiles. Il en parle au chapitre 1. Leur vie a été en danger. Il utilise le mot détresse, c'est-à-dire qu'on était sous pression. C'était exigeant émotionnellement, physiquement, etc. Ça affectait toute sa personne. Il dit, quand Tite est arrivé, il nous a fait un rapport comme ça sur vous. Waouh, que ça nous a fait du bien. Ça nous a tellement rendu fiers de vous. Ça nous a tellement... Puis le mot ici, vraiment encouragement, réconfort, c'est le mot ici utilisé. Puis c'est le mot qui est utilisé pour parler que c'est Dieu qui a fait ça, mais à travers une personne. Et parfois, vous savez, le réconfort de Dieu porte un nom d'une personne. Est-ce que vous êtes un réconfort de Dieu pour quelqu'un? Parce que Dieu vous utilise pour l'encourager dans son épreuve. Est-ce que vous connaissez quelqu'un récemment qui a été un encouragement pour vous de la part de l'Éternel et que cette personne-là porte un nom, vous le savez, qui vous a fait du bien? Remerciez Dieu pour cette personne-là. Parce que c'est Dieu qui vous encourage. Dieu utilise les gens pour faire du bien les uns aux autres. C'est pas juste, ah, cette personne-là m'a fait du bien. C'est Dieu qui vous aime et qui prend soin de vous lorsque quelqu'un vous donne de l'amour, de l'encouragement, du soutien dans votre épreuve, que vous vivez du réconfort. C'est Dieu qui vous aime. Il faut se retourner de bord et dire merci pour tes bons mots. Dire merci Seigneur de m'encourager par cette personne-là. Merci. Il y a juste dans la dernière année, quelqu'un me disait, elle dit, je ne sais pas pourquoi, elle dit, je priais pour toi, je me suis réveillé dans la nuit, puis je priais pour toi, Joël, puis ta famille. Elle, je ne sais pas pourquoi, je dis, c'était quand? Elle me dit, c'était il y a environ 3 semaines, à peu près, ta. Je dis, ah, ça fait du sens. Je vivais telle chose avec mon épouse, avec une situation qu'on avait à gérer ensemble, puis on trouvait ça difficile. Sûrement que c'était Dieu qui t'a utilisé à ce moment-là pour prier pour nous. Quand Dieu vous interrompt la nuit, là, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelqu'un à qui vous pensez, priez pour cette personne-là. On ne sait pas ce qui se passe dans les autres vie des gens, ils ne nous disent pas toujours tout ce qui se passe. Et on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe non plus. Mais si Dieu vous met une personne à cœur tout à coup, vous n'arrivez pas à dormir, priez jusqu'à ce que vous dormiez dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu veut nous encourager. Il est le Père de toute consolation. Il le dit, de toute miséricorde, de toute consolation. Et Paul l'expérimente dans ce livre-là où il est vulnérable. C'est le livre où il parle le plus de ses émotions, qu'il est à cœur ouvert. Et il dit, Dieu a toujours été fidèle à m'encourager, à me consoler. Parce qu'il est le Père des consolations. Et Paul l'expérimente, et là, il précise ici, dans son processus de réconciliation. Et il remercie Dieu pour cela. Peut-être ta maman a été pour toi un titre, un encouragement. Ou peut-être tu as besoin d'être un titre pour ta maman ou pour une maman autour de toi. D'être l'encouragement qui porte un nom, qui soutient une personne autour de toi, qui dans l'épreuve a besoin d'encouragement. Et vous savez, j'aimerais nous encourager à la transparence aussi dans nos relations, comme Paul l'est ici, très en train de parler de ses émotions, parler de ce qui le décourage, qui l'encourage. Il est ici d'exprimer comment une personne lui a fait du bien. Tu sais, on a toutes des monsieur, madame, va tout bien dans nos vies. Comment ça? Ah, ça va super bien. Que tu poses la question par routine, mais puis si tu dis moindrement quelque chose, ah, fais-toi pas, le Seigneur va tout régler ça. Ah, Dieu est bon. Ah, fais confiance à Dieu. Puis là, tu dis, ah, oh, ça ne m'a pas encouragé, là. Parce que là, j'ai plus entendu un paquet de bondieuseries. C'est pas que c'est faux, mais je me sens pas compris. Je me sens religieusement, superficiellement encouragé, mais je sens pas de vulnérabilité chez l'autre. Ça va pas toujours bien dans nos vies, n'est-ce pas? Pourquoi pas le dire quand ça arrive? Peut-être que tu veux pas le dire à tout le monde. Mais comment ça va ce matin? À ça, je me pose plus. Peut-être un petit peu, là. Comment ça va un matin? C'est une bonne question, ça. Ça va-tu bien un matin? Ah oui, ça va bien, oui. Mais t'es arrivé ici, t'as mené un dimanche matin, les frères, gentiment. Comment ça va ce matin? Puis je lui ai dit, ben honnêtement, je lui ai dit, matin, c'est un matin de marde. Je vous le dis comme ça parce que c'était comme ça. C'était un matin de même. M-A-R-D-E, avec des grosses lettres. C'est comme ça que je me sentais. Ah, oh, et je l'ai comme pris de surprise. Mais il était gracieux avec moi. J'avais besoin de le dire, j'étais déçu de mon matin, ça allait pas bien, j'allais prêcher, puis croyez pas que parce qu'on vient ici là, prêcher le matin, là, qu'on est porté par des anges en auto, là. Il y a bien des démons qui suivent mon exorcisme, je peux vous le dire. Puis ils veulent rentrer dans l'intérieur, puis mettre de la chicane, amener des conflits, amener mes pensées partout ailleurs, m'inquiéter sur moi-même et plein d'affaires. On vient pas toujours ici comme chacun d'entre vous. On mange le même pain, les mêmes défis familiales. On n'arrive pas toujours en bon état. Je suis prêt à le dire. Ça va toujours bien, c'est correct. Parce que quand vous dites tout le temps que ça va bien, les gens autour de toi, ben, ils savent qu'ils ne vont pas s'ouvrir à toi probablement. Tout ça va toujours bien. Dieu est toujours bon pour toi. C'est toujours facile, la vie chrétienne à l'apparence. Pourquoi je serais vulnérable avec quelqu'un qui a l'air à tout maîtriser sa vie? Je me sens pichou et pas bon à côté. Parce que moi, ma vie n'est pas vraiment de même dans les faits, n'est-ce pas? Puis je pense qu'on est tous dans la même vie. Amen. Soyons comme Paul ici, honnêtes et transparents sur ce qu'on vit. Peut-être pas le partager à n'importe qui. On n'a pas toutes les mêmes relations de confiance, n'est-ce pas? Mais des fois, de dire, ben, c'est pas facile de ce temps-ci. Ah ouais, je vais apprécier tes prières. Ah, je vais prier pour toi. Parce que quelqu'un était vulnérable. Tout à coup, ton besoin est entendu, sans qu'on sache c'est quoi, mais que tu as besoin d'encouragement, tu as besoin de prière. Et on en a tous de besoin. En tout cas, moi, j'en ai de besoin, je peux vous le dire tout de suite. Et quand on pose la question, j'y pense plus à ça, à cette heure. Tout dépendant de la personne devant moi, évidemment, et le niveau de relation. Autant avec quelqu'un qui partage la foi avec moi, qui ne partage pas la même foi. D'être authentique. Et Paul ici le dit, et je pense que cette ouverture de cœur favorise aussi la réceptivité du cœur de l'autre côté. Cette intégrité. Maintenant, on arrive au cœur du texte. Ici, on nous apprend que la bonne tristesse qui produit la repentance. Souvent, la réconciliation doit passer par de la tristesse initialement. Et la tristesse n'est pas un signe de mauvaise santé. Bien au contraire, c'est un signe de bonne santé. 8 fois, c'est mentionné ici, tout comme dans le chapitre 2. Et si vous voulez même remarquer quelque chose qui est distinctif de cette épître de Paul, de 2 Corinthiens, 43% des usages du Nouveau Testament du mot tristesse et du verbe tristesse se retrouvent dans une seule et même épître. Complètement déproportionné du Nouveau Testament. Il en parle souvent de cette tristesse, de ce défi de gérer la tristesse. Un autre des signes, justement, de la grande vulnérabilité, de la grande profondeur que Paul ouvre dans cette lettre. Et il parle, entre autres, de la tristesse d'après avoir été repris par lui, qu'ils ont vécu. Il y a toutes sortes de manières d'avoir tristesse. Il dit, vous avez une saine tristesse. Parce qu'on peut avoir une tristesse qui n'est pas saine, qui n'est pas santé, une tristesse qui est santé. Et il parle ici, regardez bien le texte. Il nous parle, et je vais vous le relire, et là, je vais vous le relire dans une autre version, dans la français courant. En effet, même si la lettre que je vous ai écrite vous a rendu, au verset 8, triste. Je ne le regrette pas maintenant. Mon but, c'était pas de vous rendre triste, mais je ne le regrette pas parce qu'il fallait que je vous le dise. C'était pas facile, il fallait que je vous dise la vérité. J'ai pu regretter quand j'ai constaté que cette lettre vous avait attristé sur le moment. Et remarquez ça ici. C'est une tristesse momentanée, mais qui va produire quelque chose de mieux et de long terme. Mais maintenant, je me réjouis, non pas que vous avez été attristé, que vous avez eu de la... Cette tristesse était telle que Dieu le voulait. Si bien que vous nous ne vous avons causé aucun tort. Car la tristesse causée par l'attachement à Dieu, et c'est comme ça qu'ils l'ont traduit ici dans la français courant, produit un changement de vie qui conduit au salut ou à la délivrance. Mais qu'on ait à regretter, sans qu'on ait à regretter. Parce qu'il dit, il va utiliser deux mots ici. Il va utiliser la conversion, la repentance. Il va utiliser le mot regret ici, qui n'est pas utilisé souvent dans le Nouveau Testament, mais qui utilise deux fois dans ces versets qu'on vient de lire, qui est un peu un synonyme, mais dont le mot repentance est beaucoup plus distinctif et utilisé dans le Nouveau Testament pour parler justement de la repentance à salut, de la conversion. Mais la tristesse causée par l'attachement à ce monde produit quoi? C'est une des belles illustrations de tout ça, là. C'est la repentance de Judas et de Pierre. Et écrivez ça à côté. C'est peut-être un des meilleurs exemples pour illustrer ce texte-là. Il y en a un qui a eu de la tristesse, hein? Il y avait de la honte, Judas, d'avoir fait ça à son maître, de l'avoir trahi. Mais sa repentance qui était liée à « Ah, je suis une déception. Ah, oh, pauvre de moi, ça n'a pas d'allure. Ah, oh, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » Ah, oh, l'a amené à faire quoi? Littéralement enlever sa vie. L'a amené à la mort. C'était pas une saine tristesse. C'était une tristesse centrée sur lui, sur sa culpabilité. C'était pas une tristesse centrée sur une crainte de l'Éternel. Elle était pas saine, était liée aux valeurs et à la préoccupation du monde, et ça l'a amené à vouloir régler ça à la façon du monde. M'enlever la vie. Ce n'est pas une tristesse selon Dieu qui m'amène à enlever ma vie. C'est une tristesse selon le monde. C'est l'expression que Paul utilisait. Et elle produit cette tristesse-là selon le monde, donc centrée sur moi, sur mon apparence, sur mon acceptation sociale, sur les conséquences que ça apporte dans ma vie et qui affecte tous les jours, ça amène la mort comme résultat. Ah, pas pour toujours parce qu'on va enlever notre vie, mais ça peut arriver, mais parce qu'elle produit quelque chose qui me détruit. C'est surtout ça l'idée de la mort ici, qui détruit ma personne et qui n'amène aucune résolution relationnelle du tout. C'est une tristesse centrée sur les conséquences dans ma vie et comment elles m'affectent. Pas centrée sur qui j'ai offensé et sur qui je dois aller vers pour régler cela. Tandis que la tristesse, selon Dieu, approche de Dieu. Donc, il y a une tristesse qui nous approche de Dieu et il y a une tristesse qui peut nous éloigner de Dieu selon comment on aborde la situation et quelle profondeur ce regret va dans nos vies. Et remarquez bien ici comment il a été rassuré. Regardez au verset 11, les résultats et ce qui a convaincu que vraiment la repentance ici portait des bons fruits et qu'elle est authentique. Voici les caractéristiques d'une authentique repentance, ce qu'elle produit chez quelqu'un. Et quand on observe ça, on fait comme, OK, elle a vraiment compris, il a vraiment compris. Écoute, c'est comme, c'est rassurant. Et là, tu peux même redonner confiance quand ces choses-là sont là. Regardez bien. Vous voyez plutôt ce qu'elle produit chez vous, la tristesse selon Dieu. Et voici les traits. Mais oui, quel empressement. Et quand tu as vu ça, tu n'as pas niaisé. Tu t'es empressé. Tu as empressé de faire les pas, les choses qu'il fallait faire. Il y a eu un empressement. Ça n'a pas été retardé, repoussé, évité, parce que là, j'ai honte, évité parce que j'ai pas le goût, parce que je me sens pas à la hauteur. Il y a eu un empressement. Hey, j'ai vraiment fait mal. Il faut que je me dépêche de régler ça. Je ne veux pas faire languir ça. Quand il y a une profonde prise de conscience du péché, de la gravité d'un geste, et que j'en prends conscience, l'authenticité d'un vrai repentir amène un empressement. Pas de retarder. Et ça, cet empressement rassure la personne de l'autre côté. OK, hey, oh, il ne veut pas niaiser. Ah, elle communique. OK, c'est quoi d'autre? Quelle excuse? Pas donner des excuses ici. OK? La version ici, j'ai la version ici à côté du français courant. Il dit, quelle bonne volonté de votre part, quel empressement de présenter votre défense. Encore là, je suis pas certain que j'aime ici. L'idée de juste excuser, c'est pas de donner des excuses, mais justement d'accepter tout cela. Il utilise un troisième mot, indignation. C'est une irritation contre ce que j'ai fait, une irritation contre moi-même, du mal que j'ai fait, de la prise de conscience de ce que ça fait à l'autre. Il y a une irritation. C'est comme, hey, ça n'a pas d'allure ce que j'ai fait là. C'est vrai, j'en prends conscience. Hey, écoute, je te demande pardon. Je n'avais pas réalisé, là, puis ça n'a pas d'allure, effectivement, ce que je t'ai dit. Puis dans ce contexte-là, ma réaction, voyons donc, une indignation de ce que j'ai fait. L'autre entend ça, puis, ah, OK, ouais, je ne peux pas y en vouloir. Écoute, il en prend tellement conscience. Là, une indignation. Il dit, quelle crainte. Et dans le contexte, si on comprend que la crainte qui est exprimée, ce n'est pas « j'ai peur de toi », c'est une crainte qui est centrée sur Dieu ici, qu'on voit tout au long du chapitre et qui est mentionnée 4 fois. Quel désir ardent, quel zèle. Il y a eu vraiment une motivation puissante et intérieurement pour réparer ça. Un désir ardent et un zèle. Quand quelqu'un, tu vois, là, qui est motivé, là, c'est les mots ici pour parler d'une motivation profonde et intérieure. Et finalement, quelle rétribution ou quelle réparation. Et ça, ce dernier-là, il est important. Un désir de réparer. Vous vous rappelez quand on a vu une authentique repentance chez un homme qui s'appelait Zachée, qui a rencontré Jésus. Après qu'il ait rencontré Jésus, y a-tu quelqu'un qui est venu le voir et dit, hey, écoute, là, le grand, là, le petit, excuse-moi, tu vas réparer ce que tu as volé au monde, là. Y a-tu quelqu'un qui est venu lui faire la leçon pour qu'ils veulent faire réparer? Ça s'est fait comment? Naturellement. C'était un débat. Il a rencontré Jésus. Jésus l'a rencontré. Il a été marqué par Jésus. Il n'y a personne qui a dit quoi faire. Sa conscience, l'Esprit de Dieu en lui, dans une authentique repentance, lui a dit ce qu'il fallait qu'il fasse. J'ai volé du monde, je le sais. J'ai truqué des comptes, j'en ai pris plus. Et il est retourné réparer avec une réparation. Personne n'a été obligé de dire quoi faire. Il savait par l'Esprit Saint, dans un authentique repentir, qu'est-ce qu'il avait fait de mal et qu'il allait le corriger selon même la loi de l'Ancien Testament en donnant plus une compensation, une réparation. Quand quelqu'un vient faire ça, là, tu ne poses pas des questions. Hey, écoute, j'ai fait ça, je le regrette tellement. Ou si quelqu'un t'a volé, imaginez l'enfant qui vient t'avoir, ah, maman, papa, l'autre jour, là, j'ai volé 20$, ça me torture depuis ce temps-là, je te donne 20 de plus pour réparer mon erreur. Non. Et là, juste ça, là, d'entendre une affaire d'homme, tu dis, OK, il y a une prise de conscience. Il comme veut réparer un geste. Peu importe que tu sois d'accord avec la manière qu'il veut réparer, il veut réparer. Et un authentique repentir apporte ce désir que, dans la mesure que je peux, ce que je pourrais faire pour te rassurer et réparer mon erreur, je vais le faire. Pas parce que tu me l'obliges, parce que tu le vois chez l'autre, cet authentique regret profond, qui n'est pas superficiel, mais qui est dans le cœur de cette personne-là. On est loin des petits repentirs à la va-vite. Hein? Il n'y a rien qui écœure plus que quand quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Ah, oh, je suis désolé, je m'excuse, puis la part. Puis là, comme, c'était quoi ça? Il n'y avait rien de satisfaisant là-dedans. Hein? Une excuse à la va-vite. Des fois, on n'est pas capable de l'expliquer, mais on le ressent. Il n'y a pas de satisfaction là. Quand quelqu'un te demande quelque chose pour juste acheter la paix, juste parce qu'il y a de la honte, puis donne un petit « je te demande pardon à la va-vite » ou « je m'excuse », ben là, tu n'as pas des excuses à donner. Tu as fait par exprès, là, mon grand, là, ma grande. Là, c'est comme, là, assume-toi, je te demande pardon. Puis c'est comme, tu es responsable de ton action. Là, c'est pas « ah, excuse, tu as un accident, je t'ai rentré dedans, je ne l'ai pas exprès ». Non, non, tu m'as traité de grosse… tu sais, c'était pas un accident, là. Hein? Les excuses banales, quand la personne part, laissent aucune satisfaction. Au contraire, même une irritation, se sentir pas compris, puis une banalisation de ce qui s'est passé. On est loin de ça ici. Là, on avait des gens qui étaient sérieux, puis ils disent, on a observé votre comportement, là, puis je vous avais dit que ce monsieur-là, il fallait le discipliner. Je vous avais dit, cette personne-là, il fallait faire une action dans 1 Corinthiens, entre autres, chapitre 5, il y en a un, là. Puis je sais que c'est pas facile, puis il y avait une personne offensée dans l'église, il y avait une personne que personne n'osait rien faire. Je vous ai dit, il faut régler ça. Mais quand je vous ai exhorté, j'ai vu ce que vous avez fait, on m'a raconté, waouh, vous avez été sérieux, vous l'avez fait avec amour, vous l'avez fait avec fermeté, vous n'avez pas niaisé, tout s'est fait dans l'ordre. On l'a vu, les fruits après ça, t'as apporté, puis c'est comme, hey, gang, je suis vraiment fier de vous autres, l'Église de Corinthe. C'est ça que Paul dit. Je le vois, là, c'est vraiment clair. S'il y avait un doute, il dit à la fin, les doutes sont tous enlevés. Parce que votre comportement a témoigné d'une prise de conscience, de repentir authentique. Non religieux, non superficiel, non préoccupé des conséquences, mais préoccupé profondément d'une saine crainte de Dieu. Et ça se ressent. On le décrit ici, mais ça se ressent profondément. Et vous savez, en même temps, le vrai repentir, ça vient d'un cœur qui est touché par Dieu. C'est Dieu qui le crée aussi dans le cœur. Il y a une histoire que j'ai lue récemment d'une église il y a environ une quinzaine d'années en Virginie de l'Ouest. Puis elle avait été volée pour 5 000 $, l'église. Et le lendemain, les voleurs sont revenus par infraction encore reporter le stock qu'ils avaient volé. Pris de remords et de honte, ils étaient venus reporter. Ils n'ont pas juste eu de la honte, puis je vais sentir mal pendant 3-4 jours, mais c'est passé. Ils ont agi. Il y a eu de la culpabilité. Il faut apprécier l'honnêteté de leur geste, hein? Si je peux le dire de même. Après avoir volé, authentiquement, avoir dû repentir puis le ramener. En secret, comme ça a été volé en secret, il retourne en secret. On en rit, mais il y a eu un geste de réparation qui a été avec empressement, qui a été authentique et rapide. Et qui était, on va se le dire ici, là, ça comportait du risque de retourner à la même place le lendemain. Il aurait pu appeler, mais probablement il avait peur des conséquences. Mais il y a eu une action concrète. Mon but, c'est pas de tout analyser leurs motifs, ils sont pas là. Mais il y a eu un repentir sérieux et ça a amené une action. Lorsque nous péchons, le Seigneur ne veut pas recevoir des excuses rapides, frères et sœurs. C'est pas ça qui plaît à Dieu, des excuses rapides, trop vite pour réfléchir. Il cherche une attitude différente, un changement de comportement qui va le manifester, ce changement d'attitude. Les Écritures qualifient cela de la tristesse selon Dieu qui produit vraiment une authentique repentance. Paul a vu cette tristesse chez les croyants de Corinthe et c'était leur réaction à une lettre de reproche qu'il avait écrite. Tout d'abord, cela a troublé et a amené aussi de la tristesse, mais lorsque leur tristesse a engendré un changement véritable de cœur, l'apôtre se réjouit. Ça produit de la joie, d'une satisfaction profonde. La tristesse causée par le péché peut être bonne ou mauvaise. Cependant, ce n'est que lorsqu'elle engendre l'intention de changer qu'elle délivre de la culpabilité et renouvelle la joie du salut et la joie de la relation qui avait été brisée. J'aimerais vous offrir ce matin, j'ai trouvé cette définition que je trouvais tellement bien équilibrée par pasteur Warren Wiersbe. Il y a un petit livre que j'ai acheté à mes filles, entre autres, qui s'appelle « Chapitre par chapitre »,« Chapter by chapter », qui est un petit livre de méditation avec une demi-page de paroles sur un chapitre dans notre lecture et qui est vraiment édifiant. Et il a mis cette citation-là que j'ai traduit et je vous l'offre ici ce matin. Il définit la repentance de cette façon et je trouve que c'est bien équilibré. Okay? Il dit « Le regret implique la pensée principalement et le remords implique les émotions ». Mais la repentance inclut un changement de pensée, la haine du péché et la volonté de réparer. J'aime ça, la volonté de réparer. Il continue, et si la volonté n'est pas touchée, la conviction n'a pas été assez profonde. Donc, la repentance transcende le regret et le remords et vient toucher la volonté. Et cette volonté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit une action qui est en rapport avec la prise de conscience. Et si vous voulez la voir, bien, vous pouvez prendre une petite photo ou je vous enverrai la citation, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est équilibré et ça manifeste bien ce qu'on retrouve chez David, par exemple. Hein, le roi David, quand il a dû être rencontré par un prophète, parce qu'il voyait pas son péché, il savait son péché, mais il l'avait camouflé, il l'avait banalisé, il avait donné des raisonnements dans sa tête pour la mort d'un homme, pour l'adultère avec une femme et pour d'autres hommes qui sont sûrement morts dans tout ce processus-là, le roi David. Nathan doit venir l'exhorter par une histoire. Vous vous rappellerez cette histoire de brebis? Et là, quand il entend ça, il dit, hey, ça n'a pas d'allure, cet homme-là, il faut qu'il paye pour 4 fois. Au roi, cet homme, c'est toi. Et il a reçu 4 fois dans sa famille, exactement comme il le dit. Il a reçu 4 fois. 4 de ses enfants vont mourir à David. C'est pas drôle comme conséquence, là. C'est terrible. Mais quand on lit ces confessions, jamais on a lu dans le psaume 51 ou 32 des excuses. Il partage comment qu'il vivait de la détresse quand il était têtu, quand il se boquait, puis comment ça affectait tout son corps au complet. Tout son être au complet était affecté. Et quand on lit sa confession, il n'y a aucune excuse. J'ai péché contre Dieu et contre des hommes. Puis je le regrette. Et quand il a eu prié pour son fils pour pas qu'il meure et que Dieu finalement l'a emporté, il s'est relevé et il a marché après ça avec Dieu. Et il s'est pas plaint. Il savait qu'il y avait des conséquences de ses gestes. Il les a assumés. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a répondu. Et c'est pas un homme parfait. Et pourtant, il nous donne ici un bel exemple, par contre, comme Pierre. D'une authentique repentance. Pierre s'est repenti et lui, il ne s'est pas pendu comme Judas. Il a rencontré Jésus. Il lui a dit qu'il l'aimait. Et Dieu l'a restauré. Quelle satisfaction qu'il a vécu avec lui. Tant de choses à dire, mais j'aimerais terminer avec un dernier point. Et juste vous dire en terminant que quand il y a une restauration de relation, là, puis qu'on voit une authentique repentance, il y a quelque chose de très satisfaisant qui se passe là, qui est dur à décrire. Et là, Paul va nous le décrire ici dans un 5e point, la joie de la réconciliation. Lisons-le ensemble et on va regarder un résumé à la prochaine diapo de ce qu'on y trouve dans cette joie-là. Regardez bien, verset 12. « Bref, si je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé. » On pense ici que ça a rapport avec la personne qui est reprise dans 1 Corinthiens chapitre 5, une personne qui était offensée, une personne qui était l'offenseur. Mais il dit, c'est pas ça, mais pour faire voir devant vous, en présence de Dieu, le zèle que vous avez pour nous. Voilà ce qui nous a consolés. Outre cette consolation personnelle, nous sommes réjouis plus encore de la joie de Tite, dont l'Esprit a reçu de vous toute une pleine apaisement. Car si j'ai devant lui montré quelque fierté de vous, je n'ai pas eu à rougir, mais comme vous, nous avons toujours dit la vérité, ainsi la fierté que nous avons montrée de vous devant Tite s'est trouvée justifiée. Sa tendresse, son affection profonde ici, pour vous, n'en est que plus grande lorsqu'il se rappelle votre obéissance à tous. Avec quelle crainte et quel tremblement vous l'avez accueilli. Je me réjouis de pouvoir en tout compter sur vous. Je résume ici, en diapo, ce qu'elle produit. Regardez bien ce qu'elle produit après la réconciliation. Il y a de l'empressement dans la relation, verset 12, premièrement. Deuxièmement, il y a de l'encouragement. Et là, le mot encouragement est utilisé à différents endroits, mais il y a de l'encouragement, de la joie et du repos de l'esprit, au verset 13. Quand ça arrive, là, du moment où ce qu'on avançait, on avait de la culpabilité, ou qu'on avait de la honte, ou qu'on avait de la colère, ou qu'on avait de l'anxiété, que c'était lourd, on avait perdu notre joie, quand cette réconciliation rentre, qu'il y a une authentique repentance dont je suis témoin, il y a un renversement d'une joie profonde, d'un calme, d'une paix d'esprit incroyable. Et si vous avez vécu une authentique repentance devant Dieu, une authentique réconciliation avec quelqu'un, vous savez de quoi je parle. C'est dur à décrire la satisfaction profonde qui se produit à ce moment-là. Entre ce que c'était avant et ce que c'est devenu. Et un pas plus loin dans la relation. Il y a une saine fierté. Ici, il exprime une fierté paternelle, comme un père ici. Il parle aussi des tendresses de titre qui ont augmenté et qui témoignent de leur obéissance. Donc, ça produit de l'obéissance. Et chez la personne qui voit ça, ça augmente son affection pour l'autre. Je me rappelle d'un couple, il y a bien des années, ça fait très, très longtemps, qu'on avait dû exhorter ma femme et moi, puis on avait dû dire des choses difficiles, puis il y avait une tension qui s'était faite. Et finalement, il y a eu une prise de conscience de la part du couple qui ont pris le reproche et qu'on a vu vraiment un renversement de situation. Et tout le long de la préparation du mariage après ça, et après, ça laissait vraiment entre nous, de cette tension-là qui aurait pu vraiment augmenter un gouffre entre nous, c'est fait le contraire. Rappelez-vous de tout ça. Quand il y a un potentiel de gouffre, d'un fossé entre vous et une personne, de tension, celui-ci peut grandir, le fossé, si on l'adresse charnellement. Mais devant toute gouffre relationnelle, si elle est adressée avec l'aide de Dieu, il y a le potentiel du renversement d'être encore plus proche. Si c'est bien réglé avec l'aide de Dieu. Si la réconciliation se fait selon Dieu, le potentiel qu'on a peur de grossir la situation est proportionnel. Il y a un potentiel qui est là, qui peut seulement venir dans une éruption relationnelle. Alors, découragez-vous pas d'une tension qui est là. Si vous vous réconciliez bien, vous serez encore plus proche après de ne pas avoir le fait de surmonter ce défi-là. Il y aura une plus grande profondeur dans la relation. Une expérience plus satisfaisante parce qu'elle aura surmonté un défi que si tu n'en as jamais eu à surmonter et que ça peut rester assez superficiel la relation, que si tu as dû le surmonter. Quelle joie, quelle tendresse. Regardez tous les mots qu'il y a là. Et là, encore plus de confiance. Oh, mais comment tu peux redonner confiance à quelqu'un qui t'a trahi? Mais si tu vois une authentique repentance, qui t'a parlé dans le dos et qui regrette, si tu vois qu'il t'a insulté, mais finalement il regrette, il y a une honte, tout ça, la confiance peut revenir, mais la confiance ne revient souvent pas. Vous savez pourquoi? Parce que la repentance est superficielle. Parce qu'elle n'est pas dite. Et là, on ne peut pas redonner la même confiance à quelqu'un qui nous a trahis, qui nous a fait quelque chose de mal, parce qu'il n'y a pas de signe rassurant qui fait que ce serait légitime de te refaire confiance. Vous me suivez? Et c'est là que des fois, on a des défis relationnels. Je vous donne ici une citation que j'ai sur le défi de réparation. Et je trouve que M. Wiersbe l'a bien résumé. L'une des choses les plus difficiles est de reconstruire une relation qui est brisée. C'est ce que Paul s'efforce de faire dans cette seconde lettre. En particulier ici dans les chapitres 6 et 7. Et il dit, malheureusement, il existe beaucoup de relations brisées aujourd'hui. Foyer, église, ministère. Elles ne peuvent être restaurées et consolidées que si les personnes cherchent à se mettre en ordre avec Dieu. Elles doivent confronter honnêtement leurs problèmes et les régler bibliquement et affectueusement. Mais remarquez ici, les régler avec Dieu. C'est avec Dieu que ça commence. Si je ne les règle pas avec Dieu, je ne les réglerai pas comme il faut avec les hommes, avec les humains. Lorsque nous examinons notre propre vie, nous devons décider d'être un élément de la réponse et non un élément de problème dans la situation. Nous devons manifester de l'appréciation, pratiquer la séparation et encourager la réconciliation pour que Dieu puisse nous utiliser à notre tour pour restaurer les autres relations brisées. Parce qu'une fois que vous avez appris à réparer, vous l'avez vécu, vous êtes capable d'encourager d'autres à prier là-dessus, encourager d'autres à le faire et voir comment que c'était payant, que ça vaut la peine ce moment de honte et de temporairement, puis de réaliser ce que ça apporte après, ce que ça a produit au niveau de la satisfaction relationnelle profonde que cela apporte. Et vous savez, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour être sauvé, la repentance. C'est aussi quelque chose qu'on doit utiliser pour maintenir la relation. Remarquez les églises d'Apocalypse, hein? 4 des 7 églises d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 et 3, 4 sur 7 sont invitées à vivre de la repentance. Pas parce qu'ils n'étaient pas sauvés, de la repentance face à du péché dans l'église, face à du compromis moral, à du compromis doctrinal, à des conflits intérieurs, face à du compromis avec le monde. Repentez-vous! Donc, le mot repentir n'est pas juste l'idée de se repentir pour être sauvé, c'est se repentir pour restaurer la relation qui a été brisée. Et ici, dans ce cas-là, avec Dieu, premièrement, et avec les hommes et les femmes. Ce qui s'ensuit. Je vais inviter l'équipe à s'approcher. Alors que je veux juste souligner deux brefs encouragements ce matin. La réconciliation, vous savez, augmente la satisfaction que nous tirons d'une relation. C'est ce que je vous dis depuis tantôt. Vous voulez de la satisfaction dans vos relations? Acceptez qu'il y aura besoin de confession, de pardon, de tristesse. Et puis viendra la satisfaction. Le cœur d'une mère, ben c'est aussi le cœur de Dieu pour la réconciliation. Les mères, j'aimerais vous encourager ce matin. Découragez-vous pas. Continuez à être des agentes, des agents de réconciliation. Même si parfois ça peut être décourageant. Et peut-être que vous avez une situation dans votre vie présentement, là. Peut-être c'est vous qui devez aussi y participer. Pas juste prier et attendre. Il y a une action que vous devez faire ce matin. Peut-être c'est d'encourager quelqu'un autour de vous qui a un bris relationnel, d'encourager dans ce sens-là. Peut-être vous avez un conflit avec votre mère et Dieu vous encourage ce matin à aller réconcilier, de ne pas laisser ça traîner. C'est ma maman. Et c'est trop important. Et la vie trop courte pour limiter ça. Mais peut-être est-ce pour chacun d'entre nous un encouragement, une invitation à la réconciliation avec quelqu'un autour de vous. Pas juste avec maman et pas juste maman avec les autres. N'importe qui ici. Qu'il y a un conflit, vous avez besoin d'encouragement ce matin par la parole de Dieu. De ne pas vous laisser décourager, sombrer de dépression. Ça n'arrivera jamais. Peut-être c'est avec un fils ou une fille. Peut-être c'est avec un voisin, un membre de la famille, une personne au travail. Ça semble impossible. C'est sûr que ce n'est pas pareil lorsqu'on ne partage pas la même foi, mais encore là, c'est toujours un défi. Que ce soit une personne avec la même foi ou qui ne partage pas la même foi. Ce matin, juste de prier et de le remettre au Seigneur. Et peut-être ce matin, finalement, vous n'avez pas encore votre réconciliation avec Dieu. Vous êtes encore un observateur ici. Vous êtes encore en train d'entendre le message, mais vous n'avez pas encore pris de décision. Et le Seigneur, ce matin, vous invite à la réconciliation avec lui. D'arrêter de risquer votre vie chaque jour, ne sachant pas le dernier jour que vous aurez. De reporter, de régler votre situation avec Dieu. De lui demander pardon pour vos péchés avec une authentique repentance. De lui donner votre vie avec une authentique reconnaissance. De croire en lui avec une authentique foi qu'il est le Fils de Dieu Jésus, qu'il est le seul qui pouvait construire le pont entre vous et le Père Céleste. Et ce matin, je vous invite dans notre temps de prière à mettre cela devant lui. Prions ensemble et que le Seigneur réconcilie nos cœurs là où il veut. Seigneur, ce matin, on te confesse nos péchés, nos manquements dans les relations. Et nous voulons, Seigneur, te confier ces relations, te demander d'intervenir, Père Céleste. Et qu'on puisse vivre cette même expérience que Paul vit d'une profonde satisfaction de vivre cette réconciliation. Certains, Seigneur, dans cette salle, ont soif d'une réconciliation avec quelqu'un depuis tellement d'années que ça semble impossible. Renouvelle leur force, leur foi en toi, Seigneur. Encourage-les à continuer de prier, à continuer de persévérer, d'aimer. Peut-être est-ce une fille, un fils éloigné depuis longtemps. Peut-être une relation sur laquelle j'ai abandonné de travailler dessus et que j'ai besoin de recommencer à te prier, Seigneur. Et Père Céleste, certainement dans cette salle, il y a de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Et j'aimerais te prier pour eux ce matin, alors qu'il y a un combat dans les cœurs, alors qu'il y a des résistances, qu'il y a toutes sortes d'excuses, qu'il y a toutes sortes de choses qui sont mises comme obstacles pour dire « Oui, Seigneur, je veux t'accueillir dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux te demander pardon. Je fais le mal contre toi. C'est pas juste des péchés banals. Je pêche contre mon Créateur. Je le reconnais et je veux te demander de me pardonner par Jésus-Christ, s'il vous plaît, ce matin. » Et peut-être est-ce ta décision. Et Seigneur, je te prie pour cette personne-là qui est en combat, qui reporte cette fameuse décision de te rendre et de te laisser la place qui t'appartient comme Seigneur et comme Sauveur. C'est devant toi, Seigneur, qu'on se place ce matin, chacune de ces requêtes, et te prions, Seigneur, que tu interviennes et que tu restaures nos relations dans le nom de Jésus. Amen.